I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous êtes sur le point d'écouter AI, un podcast intelligent et sans artifice, en forme de réflexion sur les promesses d'avenir radieux portées par les chants plus ou moins mélodieux des sirènes binaires de l'océan digital.
It's on a sinking, the cattle go devils go down. It's redding, those wings are down. Those wings are down. It's time.
Bonjour, je suis Vincent Malone et si vous m'entendez, c'est que vous avez le bon goût d'écouter AI, le podcast 100% indolore et consacré à l'intelligence artificielle avec aujourd'hui sur la mezzanine du poste général Olivier Vigneault, Cortex de BETC Digital.
Bonjour Vincent.
Félix Barrès, cerveau reptilien du journalisme.
Bonjour.
Et notre invité prestigieux, Antoine Bernard, fondateur de l'agence Reality, spécialisée dans les technos immersives.
Bonjour à tous.
Le sujet du jour étant
la réalité virtuelle et la réalité augmentée.
La réalité augmentée et la superposition de la réalité et d'éléments sont images 2 ou 3D, vidéos ou autres calculées par un système informatique en temps réel.
Allez hop mon pote, balance la pub.
Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer votre vie grâce à NIU. NIU, c'est vous à la puissance N.
Ma cuisine est 40% plus grande et bien mieux équipée.
Les toilettes aussi.
Et notre chien, mon Dieu, c'est un Doberman.
Oui, avec NIU, Enlarge Your Life, vous allez enfin voir grand dans tous les domaines de votre vie.
J'ai toujours rêvé d'une Ferrari.
Mais également vos vacances et vos souvenirs.
Oh, notre nuit de noces, ça c'était quelque chose.
Vous en avez assez de vos petites vies, votre petit appartement, votre petit boulot? Alors, choisissez NIU.
Et ça marche pour le physique? Enfin le...
Allons, NIU en large, mais ne triche pas. NIU, comme tous les produits NLI, est 100% respectueux de la charte BioChange. Voulez-vous en savoir plus?
Alors, Olivier, est-ce que ce que nous venons d'entendre est crédible?
C'est très désirable, en tout cas, manifestement. En tout cas, c'est un chemin qui est en train d'être pris, c'est-à-dire le mélange entre la réalité physique et puis une couche qui se superpose et qui modifie nos perceptions et qui modifie notre vision des choses. Ça me fait penser à la série Years and Years, dans laquelle il y a un personnage d'adolescent.
Avec Emma Thompson.
Voilà, oui, tout à fait. C'est pas elle qui joue l'adolescente, hein, évidemment. Cette adolescente se pare d'éléments de réalité virtuelle et donc communique avec ses parents, mais en se transformant en petit chaton, enfin, en faisant comme s'il y avait un filtre Snapchat entre elle et les autres gens. Et ça semble être finalement un peu comme quand on disparaît dans nos communications digitales derrière les animojis d'Apple, où maintenant, il y a pas mal de gens, quand ils m'appellent, je vois plus leur tête, mais je vois leur animoji qui me fait coucou. Donc ça devient déjà une version transformée de ce qu'ils sont. Ça semble être un chemin qu'on prend avec des questions évidemment et toujours des paradoxes. Dans l'étude qu'on a menée sur le futur du divertissement, donc sur les attentes des gens en termes d'immersion et notamment dans le gaming, on a quasiment 70% des prosumers, donc des gens qui sont les plus en avance, qui nous disent « Moi j'ai envie de m'immerger et notamment dans les jeux vidéo, j'ai envie que ce soit le plus immersif possible. » Et en même temps, un peu moins de la moitié, 43%, ont peur de se retrouver déconnecté du monde réel. Et je pense que c'est ça tout l'enjeu du sujet, en tout cas à travers la pub telle que je l'aperçois, c'est cette envie de vie augmentée, cette envie de rêver de soi en mieux, cette envie de voilà, de je vais m'imaginer un monde dans lequel les choses seraient plus agréables, et en même temps ce danger de la déconnexion du monde et d'une immense solitude derrière des interfaces qui nous isolent.
Antoine Bernard, vous êtes fondateur de l'agence Reality spécialisée dans les technos immersives. Est-ce que pour vous, la publicité que nous avons entendue est crédible?
Oui, c'est possible d'accéder à des mondes parallèles, mais je pense qu'aujourd'hui, enfin, il faut vivre dans un monde parallèle pour comprendre les possibilités de ce monde. Et c'est vrai que les capacités de la réalité virtuelle, ça permet de vous faire voyager, de vous émerveiller et de vous créer de l'émotion. Et aujourd'hui, c'est aussi de l'émotion qu'on peut avoir grâce à ces nouvelles technologies. Et je pense que c'est une manière récréative de pouvoir consommer le contenu. Après, quand c'est lié à la publicité, c'est vrai que quand c'est lié à la manipulation de la personne, là, ça devient anxiogène, on va dire. Nous, en tout cas, chez Reality, on n'essaye pas de transformer le monde, mais on est plutôt terre à terre sur les besoins de nos clients et essayer de concevoir des contenus immersifs qui apportent plutôt du positif que du négatif.
Quand j'ai fait mes premières recherches sur Reality, un des points sur lequel vous êtes fort, c'est pas de changer la réalité, c'est de placer des gens dans une réalité auquel ils n'ont pas accès, notamment pour la formation.
En fait, on essaie de développer des contenus immersifs qui soient positifs pour les gens. Et du coup, la formation est un point important de la réalité virtuelle. C'est un des contenus qui est le plus développé aujourd'hui sur le marché, en tout cas sur le secteur d'activité de la réalité virtuelle. Et le fait de pouvoir se mettre en immersion et de pouvoir notamment de vivre des risques et de pouvoir vivre ces risques en réalité virtuelle et pas dans la vie réelle, c'est un point qui permet de voir ensuite, dans une vraie réalité, pouvoir mieux les gérer en tout cas.
Mais là, on est tout de suite sérieux. Moi, je veux bien, mais tout de même, l'idée d'être chez soi, et puis au lieu d'être dans son taudis de 20 mètres carrés, on a une réalité virtuelle où tout à coup on est dans la galerie des glaces de Versailles ou des choses comme ça, c'est pas désagréable.
Oui, mais je pense que c'est plutôt comme aller au cinéma. Au final, vous allez au cinéma pour aller voir un film, pour vous évader. Et au final, la réalité virtuelle, c'est pas une évasion que vous allez avoir tous les jours. C'est une évasion que vous allez avoir pendant une heure, pendant 15 minutes.
Pourquoi ?
Parce que ça peut faire mal aux yeux. Il y a certaines personnes qui restent plus de 24 heures dans un casque de réalité virtuelle. Vous avez notamment VRChat, où vous avez aujourd'hui plusieurs milliers de personnes qui sont en réalité virtuelle en temps réel et qui peuvent du coup jouer, s'amuser dans des casques de réalité virtuelle. L'idée, c'est pas forcément rester trop longtemps non plus, parce que ça peut faire mal aux yeux.
Si vous allez regarder ce qui se fait en termes de réalité virtuelle, et je vais d'abord citer Alain Damasio, qui est un grand écrivain de science-fiction actuelle qui est passionné par ces questions-là, il dit « La réalité virtuelle telle qu'elle est aujourd'hui, c'est de la promesse trahie, de la pensée magique, les casques sont hyper lourds et l'image encore pixelisée, c'est un média transitoire et bâtard que le technocapitalisme a vendu comme la nouvelle immersion, sauf qu'en réalité, c'est assez foireux. »
Alors je suis pas du tout d'accord avec vous, je pense que vous avez aujourd'hui des contenus triple A qui sont développés par des studios reconnus type Oculus. C'est des jeux vidéo qui sont haut de gamme.
Et c'est justement, on est toujours en dessous de ce qui est fait dans le jeu vidéo, en fait.
On sera toujours en dessous du jeu vidéo parce que c'est du B2B et du coup, on n'a pas les mêmes financements, mais on a aussi des financements tiers type CNC qui financent des projets de réalité virtuelle 3D qui sont très qualitatifs et qui passent aujourd'hui à Cannes avec des studios très renommés type Félix & Paul ou Atlas V sur le marché français. On a aujourd'hui la chance d'avoir des talents en France de producteurs qui produisent des contenus très qualitatifs. Et c'est aussi ça notre chance aujourd'hui, c'est de pouvoir produire des contenus qui soient à la hauteur des attentes.
Pouvez-vous nous donner un exemple ?
Bah, typiquement, on fait de la formation vente pour Célio. On va pouvoir se mettre en immersion dans un magasin et dans ce magasin, on va pouvoir vivre différentes situations. Et donc du coup, on va pouvoir revivre plusieurs situations dans la peau d'un vendeur. Et l'idée, c'est de pouvoir se former à différentes situations, type j'ai plusieurs personnes dans le magasin, à qui je dois donner les vêtements en premier, qui est ma priorité dans ce magasin, et de pouvoir aussi être formé à se mettre à la place de l'acheteur. Du coup, on a des heat maps, donc c'est-à-dire des zones de chaleur, où est-ce que les personnes regardent. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir analyser la situation, pouvoir analyser quelles sont aussi les actions que la personne va prendre. Parce que du coup, dans la réalité virtuelle, on va pouvoir créer de l'interaction, c'est-à-dire des pop-up d'interactivité. On va pouvoir passer d'une scène à une autre, répondre à des questions. Et en fonction de ces réponses, avoir différents scénarios pédagogiques qui vont pouvoir se mettre en place. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un engagement de l'apprenant. Il ne peut pas regarder son portable ou regarder autre chose. Il y a aussi ce côté ludique, le fait d'apprendre en s'amusant, le fait d'utiliser les codes de la gamification pour pouvoir apprendre du contenu. Et puis aussi, il y a l'esprit waouh, le côté innovation qui attire le monde à pouvoir utiliser ce type de contenu pour se former.
C'est le serious game, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Ce côté où au final, on est acteur du contenu et pas passif devant un contenu. C'est tout le pouvoir de la réalité virtuelle.
Le modèle, c'est donc bien quand même, même pour ceux qui le créent, le jeu vidéo qui a été le premier endroit où on a investi dans ces techniques-là. Mais est-ce que vos techniques, est-ce que même vos ingénieurs viennent de ces milieux-là ?
Alors, on a à la fois des ingénieurs pédagogiques qui viennent du coup de la vraie pédagogie et des game designers qui s'occupent de créer du coup les environnements. Et du coup, on travaille beaucoup sur les interactions, sur le fait d'avoir cette capacité en réalité virtuelle de pouvoir interagir avec les éléments. Et comme vous disiez tout à l'heure, quelles sont les nouvelles technologies qui sont dans la réalité virtuelle ? Vous avez maintenant la possibilité d'utiliser vos mains directement sans avoir besoin de contrôleur, d'avoir des casques de réalité virtuelle qui sont sans fil et donc du coup d'avoir cette capacité de pouvoir vraiment être en immersion totale où on va pouvoir interagir avec notre environnement comme si on était dans un environnement réel.
Est-ce que ça existe aussi pour un magasin Célio qui servirait de test pour un client éventuel ?
Ça existe, nous on l'a pas fait, mais il y a eu déjà des expériences qui ont été réalisées dans ce domaine-là. On va pouvoir analyser notamment un facing produit et on va pouvoir analyser les zones de chaleur par rapport à différents packaging, par rapport à différentes couleurs. Et donc là, dans l'analyse du client, on peut, grâce à la réalité virtuelle, en tout cas apporter des solutions. Nous, on a fait des analyses. En fait, on a fait un contenu d'analyse avec une marque de parfum où l'idée, c'était de pouvoir sentir le parfum et se téléporter à l'intérieur du parfum. Et donc là, ça a été utilisé dans la conception notamment de pouvoir gérer les sens de la personne. Et grâce à la réalité virtuelle, on pouvait à la fois comprendre où est-ce que la personne regardait en fonction de ce qu'il sentait et du coup de pouvoir analyser l'environnement pour ajouter des touches de couleur ou ajouter des senteurs type de la noix de coco ou de la guimauve en fonction de la personne.
Oui, en fait, ce que j'entends quand même, c'est pas tant l'analyse de, effectivement, où je regarde, etc., parce que c'est peut-être pas la peine d'aller sur des techniques aussi sophistiquées pour le mesurer. En revanche, je trouve que utiliser la sensation d'engagement que crée l'immersion dans la réalité virtuelle pour avoir plus d'attention de la part des gens qu'on cherche à former ou qu'on cherche à intéresser à un sujet, ça, c'est nouveau. Et moi, nous, notre métier, c'est de plus en plus celui de l'expérience client, donc l'expérience client sur tout le parcours et en particulier le parcours physique, digital, comment est-ce qu'on comprend ce qui se passe dans les magasins et comment est-ce qu'on crée plus de valeur et plus de différenciation pour les marques dans ces parcours. Et je trouve que imaginer des moyens d'engager tous les collaborateurs d'un grand distributeur, par exemple, pour qu'ils aient éprouvé des sensations, des émotions en lien avec les rituels clients et pour que ce soit vraiment déployé à très grande échelle, j'ai l'impression que c'est vraiment intéressant. Alors après, je me dis, il y a des gens qui font ça sans réalité virtuelle aujourd'hui, qui font ça avec juste du training et avec des gens qui leur dispensent la formation pour qu'ils soient meilleurs dans leur relation avec les clients. Mais je trouve que le fait de le rendre plus ludique peut être un super accélérateur. Enfin, c'est comme ça que je le vois, mais ça m'intéresse de voir jusqu'à quelle échelle on peut déployer ce type de solution pour un distributeur.
Aujourd'hui, on est limité du coup par le casque de réalité virtuelle. Après, on peut, via la vidéo 360 degrés, la diffuser sur YouTube ou Facebook. Donc, on a une capacité de pouvoir diffuser le contenu en 360 sur mobile sans forcément avoir une immersion complète, mais on peut le diffuser via un simple lien web. Après, sur des casques de réalité virtuelle, vous êtes limité du coup au casque. Après, il y a un déploiement qui peut se faire du coup sur les salons ou sur les shops. Vous avez notamment Walmart qui a investi dans 16 000 casques Oculus Go pour former ses collaborateurs. Donc c'est un gros chiffre, mais on voit que notamment la distribution se met à créer des contenus immersifs et à former ses collaborateurs grâce à ces technologies. Après, si vous prenez par exemple d'autres cas d'usage, parce que c'est vrai que vous avez plusieurs cas d'usage dans la réalité virtuelle, ça transforme beaucoup de choses dans différents secteurs d'activité. Nous, on travaille notamment avec PwC qui utilise la réalité virtuelle sur les forums de recrutement. Ils ont du mal à projeter de futurs collaborateurs dans le métier ou en tout cas dans l'environnement dans lequel ils vont être. Et grâce à la réalité virtuelle, sur un forum de recrutement, on va pouvoir, alors que je suis étudiant, se mettre en casque de réalité virtuelle et pouvoir avoir une expérience à 360 degrés pour visiter les locaux, rencontrer des collaborateurs, voir les différents métiers. Et ça, on peut le faire que grâce à la réalité virtuelle. Et du coup, c'est un pouvoir de cette technologie qui est assez forte pour des marques parce que ça permet de, en 3-4 minutes, de pouvoir projeter dans des environnements alors qu'on est à l'école.
Mais quand on se dit rencontrer des collaborateurs, c'est quoi le niveau de réalisme ? Parce que quand même, autant je me dis, bon, le magasin, à la limite, ça peut être modélisé, mais les collaborateurs qu'on rencontre, ils ressemblent à quoi ?
Il faut aller voir la visite d'usine que vous avez réalisé.
C'est ça, exactement.
Une usine de Norvège, oui. C'est une usine de Consolis, c'est ça, de béton. Moi, j'ai été regarder. Donc en fait, on est accompagné par un personnage semi-fictif qui est censé être le descendant du créateur de l'entreprise, donc qui est en tenue de travail et qui nous fait cheminer. D'ailleurs, on peut tourner notre regard avec les flèches en haut, en bas. Là, on est complètement libre du mouvement de regard et qui nous fait cheminer à travers l'usine avec des informations qui apparaissent sur l'écran. Quand on regarde, par exemple, on regarde une chaîne de montage, on a des chiffres qui apparaissent. Il nous parle, il nous présente même des collaborateurs qui sont là. C'est un peu un film qui se déroule, dont on est le héros, en fait, finalement. On se prend assez vite au jeu. Moi, au début, je me suis dit, bon, finalement, c'est un film, ok, je peux tourner le regard. Mais au fur et à mesure, c'est la scénarisation, en fait, encore une fois, qui fait le tout. C'est plus que la technique, j'ai envie de dire. C'est quand même la manière dont c'est écrit, la manière dont on est amené dedans.
Dans cette réalité virtuelle, on regarde une chaise, mais au-dessus de la chaise, il peut y avoir marqué sa marque, son prix, son machin, d'où elle vient, quel est son métal, etc.
Moi, ça me fait penser à Dragon Ball Z, hein. Quand les Saiyans et les cyborgs qui ont des petites lunettes comme ça, moi, ça me fascinait quand j'étais petit, où ils regardaient un ennemi, ils voyaient sa puissance, son nom, son truc. C'est exactement ça.
C'est exactement ça. Et en plus, l'idée, c'est que via le storytelling, on peut vraiment... Alors, on parle de story living, le fait d'avoir vraiment sentiment de présence dans la réalité virtuelle. Et le fait d'avoir un casque de réalité virtuelle à 360 degrés, on peut regarder où on veut, et aussi via le storytelling, on peut parler à la personne comme si on était devant elle.
Mais c'est pas perturbant pour la tête, ça?
Alors ça dépend des contenus. Si vous avez des contenus qui sont tournés en fixe, ça passe. Si c'est des contenus où vous êtes en descente en ski ou vous êtes en drone...
C'est quand même un peu le principe de la simulation.
C'est le même principe.
Et c'est un truc que j'ai regardé juste avant l'émission et qui doit faire fureur dans ce domaine-là, j'imagine, c'est la pornographie.
Nous y voilà.
Bah non, mais l'immersion dans un univers fantasmé, c'est typiquement, on dit que les amateurs de pornographie, c'est...
Ah oui.
Et j'ai regardé, effectivement, depuis le début, par exemple, Marc Dorcel est un des acteurs qui s'est plus penché sur ces capacités-là.
D'accord. J'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu aux marques et aux tests et tout ça, parce que Olivier m'a rembarré un peu rapidement tout à l'heure en me disant que c'était moyennement intéressant ma question, mais tout de même j'avais constaté, en voyant qu'ils avaient installé une psy ou une psychiatre, peu importe, dans un hôpital virtuel à Bordeaux, et que cette psy recevait des patients, et qu'ils avaient constaté quand même que les patients se confiaient plus volontiers finalement à cette personne virtuelle qu'à une vraie personne, parce qu'ils se sentaient pas jugés, enfin c'est en tout cas ce qu'ils disaient dans le reportage. Et je m'interrogeais sur le fait, si jamais effectivement les gens se sentent plus en confiance dès lors qu'ils ont à se confier des gens qui savent justement virtuel dans un jeu, etc.
L'expérience que j'ai eue, ou en tout cas d'immersion, et notamment dans des fictions en réalité virtuelle, et je me souviens d'un film par exemple dans lequel je me suis retrouvé où j'étais comme si j'étais
c'était
un patient.
C'était dans Titanic, non? Tu jouais avec... c'était toi.
J'étais un patient dans un hôpital un peu étrange avec des psychiatres qui venaient me voir.
C'était pas un film, Olivier.
Et... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je crois que le problème est maintenant bien posé. Et en fait, c'était justement tellement crédible que j'avais plutôt un sentiment de malaise, parce que c'était le scénario en fait qui voulait ça. Mais pour moi, si c'est bien fait, on sait peut-être au fond de soi que c'est pas complètement vrai, mais en tout cas notre cerveau a tendance à réagir comme si c'était vrai tout ce qu'on vit, et donc les interactions qu'on peut avoir, je sais pas si elles sont si différentes. Autant pour répondre à ton point tout à l'heure sur le retail, se dire que ok, je suis chez Decathlon et c'est sympa de me dire que je teste la nouvelle tente Quechua comme si j'étais en pleine nature, dans un endroit très immersif, et je suis en pleine montagne, et il y a un orage, enfin...
J'admire les choix de tes exemples. Je ne sais pas exactement ce qui se passe par ta tête en ce moment, mais je trouve ça intéressant.
Je suis très fatigué.
Entre ton hôpital psychiatrique
et l'orage en pleine
l'orage
montagne.
En pleine montagne.
Eh bien, peut-être qu'il faudrait que je me confie à un psy virtuel, moi aussi. Après, se confier, ça me fait penser à ce qu'on s'était dit il y a quelques émissions sur les robots dans les magasins, qui s'est beaucoup utilisé au Japon pour que les gens se sentent très à l'aise pour demander des tas de choses qu'ils n'osaient pas demander parce qu'ils sont un peu timides aux vendeurs réels. Mais pour moi, c'est pas de la réalité virtuelle, c'est simplement le fait de passer par une machine, et c'est pas tant la technologie de l'immersion que la technologie de la...
Oui, du réel et pas du réel.
Ouais, quoi. Du réel ou pas du réel, et du, comment dirais-je, la médiation d'une machine, en fait.
Mmh. Il y a des recherches qui ont été faites pour démontrer que plonger dans une réalité virtuelle, on était plus à même d'avoir de l'empathie sur un sujet que si on nous en parle tout simplement. Il y a des chercheurs de Stanford qui ont créé un programme qui s'appelle Becoming Homeless, a Human Experience, qui vous place dans la peau de quelqu'un qui perd son travail, qui va ensuite devoir vendre tous ses objets, puis qui va perdre son appartement, et qui donc devient SDF.
Sympa aussi les exemples de Félix.
Mais non, mais c'est pour tester en fait.
Il était au porno juste avant. Donc
et, à la sortie de cette expérience-là, ils font le test de une personne à qui on a simplement exposé le sujet, on lui propose une pétition, et une personne qui a expérimenté ce truc-là, on lui propose la même pétition, et ils ont démontré que l'empathie était plus forte quand on avait été plongé dans cette expérience. Sauf que, je mets des bémols. Déjà, est-ce que c'est pas un peu de la manipulation? Parce qu'attention, ça veut dire qu'effectivement, on peut nous faire vivre des trucs et nous dire, vous voyez comment c'est horrible. Ou ça peut être à l'inverse d'un truc un peu cool comme ça, et surtout ça tient pas dans le temps. C'est-à-dire qu'évidemment en fait ça n'engage que sur le moment où on vit une expérience assez folle, on va signer une pétition, mais en réalité ça nous change pas, nous, par rapport à une rencontre humaine réelle, c'est-à-dire d'aller, je sais pas, faire du bénévolat dans une association. Donc dans le temps ça tient pas.
Où intervient l'intelligence artificielle dans ces réalités virtuelles ou augmentées?
Alors vous avez certaines sociétés qui font de la reconnaissance vocale, donc du coup vous avez notamment le fait de pouvoir pitcher des projets et en fonction de ce que vous dites, vous avez quelqu'un qui va vous répondre et donc du coup analyser la voix. Donc il y a l'analyse vocale en réalité virtuelle qui est, je pense, une IA qui va se développer. Le fait de pouvoir interagir avec les éléments, le fait de pouvoir commander des choses par la commande vocale, vous allez pouvoir le faire avec la réalité virtuelle.
Et est-ce qu'il y a des mondes évolutifs qui sont liés au comportement de la personne et qui font appel à l'IA, justement?
Alors, c'est déjà une technologie en soi qui est complexe. De rajouter une surcouche d'IA, c'est encore plus complexe. Même là, dans le cadre de pitcher un projet en réalité virtuelle, c'est aussi compliqué pour la plupart des gens. C'est-à-dire que mettre un casque de réalité virtuelle et commencer à pitcher son projet ou à faire du commercial, c'est pas évident. Et du coup, faire de la reconnaissance vocale par-dessus, c'est encore moins évident. En fait, on est encore au stade de l'évangélisation de cette technologie. Donc, plus vous avez des interactions, plus c'est compliqué à utiliser. Donc nous, en tout cas, chez Reality, on essaye de faire des contenus immersifs qui soient assez faciles à comprendre. Donc on fait notamment des systèmes de gamification qui sont très faciles au regard, où vous n'avez que à sélectionner un point pour pouvoir passer d'une scène à une autre. Dès que vous arrivez avec des manettes, avec plusieurs boutons, notamment avec des jeux vidéo, là on part sur de la complexité où certains gamers peuvent l'utiliser, mais c'est pas monsieur tout le monde qui pourra utiliser ce type d'interaction et notamment de différents scénarios pédagogiques qui iront après. Après aujourd'hui on est vraiment sur le stade, en tout cas ce qui marche bien chez les entreprises qu'on accompagne, c'est de créer des vidéos 360 degrés qui soient diffusées sur les salons, sur votre réseau social ou sur votre site internet. Et aussi le contenu qu'ils vont financer, il va être utilisé dans différents domaines. Quand on reprend notamment la visite d'usine de Consolis, ils l'ont utilisé à la fois au niveau des commerciaux qui vont l'utiliser pour faire des présentations clients, ils l'utilisent sur des événements type des salons à l'étranger pour projeter leurs clients dans ces environnements à l'autre bout du monde, ils l'utilisent au niveau ressources humaines pour onboarder de nouveaux collaborateurs, ils l'utilisent sur les réseaux sociaux pour pouvoir agrémenter de contenu. Et donc c'est moins dans la perspective d'un monde rêvé que vous parlez, mais plutôt dans la réalité du terrain qui est plutôt pragmatique au final.
Oui, c'est juste une manière plus immersive de proposer, de montrer tout ce que l'entreprise a à partager avec ses différents partenaires.
Exactement.
Mais parce que vous l'avez abordé au début de l'émission, j'imagine que tout ça, ça coûte assez cher, que si on veut pousser la technologie loin, ça demande beaucoup de financement et que pour les clients, ils n'ont pas forcément ces budgets-là et donc on se limite à certaines choses.
Et aussi, on utilise le contenu pour pouvoir l'utiliser dans différents cas d'usage. Et ceci aussi, est rentabiliser l'investissement. Parce qu'au final, vous avez à la fois l'investissement du contenu, mais à la fois l'investissement du casque de réalité virtuelle.
Ça coûte cher?
Alors, vous avez des casques qui coûtent de 200 euros. Donc, on va dire que ça se démocratise aussi par le prix aujourd'hui. Et c'est vrai que le contenu et le contenant, on va dire, ce sont des tarifs quand même assez importants pour des sociétés.
Mais il y a quand même un domaine dont on n'a pas encore parlé qui est en plein développement, c'est les filtres.
Les filtres.
Exactement. Les filtres Snapchat, les filtres qu'on se met notamment sur les selfies quand on se prend en photo et qui nous montrent une réalité augmentée de ce qu'on est. Et moi, j'en discutais avec des collègues avant de préparer l'émission. En fait, tout le monde se met des filtres quand on se prend en photo aujourd'hui.
Je pense que le point important peut-être à différencier, c'est du coup les casques de réalité virtuelle qui sont des casques où vous avez 100% d'attention, où vous êtes en immersion dans un environnement, et la réalité augmentée, vous allez venir projeter des éléments 3D dans votre environnement réel. Notamment le jeu qui a fait grand bruit, Pokémon Go, où du coup, il fallait aller chercher des Pokémon en réalité augmentée chez soi. La complexité de ces technologies, que ce soit réalité virtuelle ou réalité augmentée, c'était surtout le matériel. Parce que du coup, vous avez des matériels de la réalité augmentée, qui sont des casques aussi, et vous avez aussi des casques de réalité virtuelle. Et via les filtres, maintenant, vous pouvez diffuser le contenu de réalité augmentée sans avoir besoin de télécharger l'application. Parce que vous êtes passé par des applications type Snapchat, Instagram, que vous êtes déjà sur votre téléphone, et vous passez par votre mobile. Ce qui est un appareil que tout le monde a aujourd'hui chez soi. Donc nous, on développe des filtres en réalité augmentée sur Snapchat et sur Instagram.
Des filtres pour des marques ou des filtres...
Alors, c'est que des filtres pour des marques.
Ouais.
Donc nous, on essaye de démocratiser, au final, le fait de pouvoir utiliser son téléphone. Donc, monsieur tout le monde pourrait utiliser son téléphone via Instagram pour projeter des éléments 3D dans son environnement. Donc, il peut projeter des éléments dans son environnement ou sur soi.
Je suis Ikea et je veux te montrer que ce nouveau canapé jaune sur lequel tu hésites ira très bien chez toi. Donc, tu le regardes à travers ton téléphone comme s'il était déjà installé chez toi, c'est ça?
Tu vas comme pour prendre une photo de chez toi, mais il y a le canapé dedans, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ça marche très très bien, en fait.
Très très bien.
Du coup, ça s'est démocratisé. Donc, c'est Snapchat qui a commencé via Lens Studio, qui du coup un logiciel qui permet de faire de la réalité augmentée sur Snapchat. Ça a commencé il y a plus de 2 ans, et c'est eux qui ont été un peu pionniers dans le domaine. Et depuis le mois d'août dernier, vous pouvez faire de la réalité augmentée maintenant sur Instagram, qui est un réseau avec plus de 1 milliard de personnes. Et donc, du coup, vous avez cette capacité de pouvoir, pour une marque, diffuser du contenu de réalité augmentée via directement ce réseau. Et c'est une publicité qui est augmentée. Et au final, vous êtes plus passif devant le contenu, vous êtes acteur du contenu et vous avez un taux d'engagement qui est bien plus important que la plupart des autres médiums aujourd'hui qui existent en communication. Et vous allez pouvoir projeter des éléments sur vous, vous allez pouvoir créer des jeux en réalité augmentée. Et vous pouvez créer des jeux aussi en multijoueur, vous allez pouvoir être à 2 à 3 personnes à utiliser les filtres. Et donc ça, c'est accessible directement depuis le réseau via une story où on va pouvoir faire un swipe up et rentrer dans un monde virtuel.
Alors j'ai quelques informations par rapport à ces filtres. On appelle ça la dysmorphie. C'est qu'en fait, à force d'utiliser ces filtres, notamment sur Snapchat, les gens qui ont l'habitude de se prendre en selfie avec des filtres débarquent en fait chez les chirurgiens esthétiques. C'est-à-dire que les chirurgiens esthétiques voient de plus en plus de patients arriver en disant « je veux ressembler à mon filtre ». Par exemple, Instagram a fait retirer en octobre 2019 les filtres à effets chirurgicaux. Sur Instagram, on n'a plus de filtres qui nous embellissent parce que ça crée de véritables maladies, de troubles. Exactement comme quelqu'un qui est anorexique va projeter sur soi une image qui n'est pas la réalité, les gens finissaient par vouloir ressembler à leur filtre. Et une info qui va t'intéresser, Vincent, ça concerne les selfies, ça n'a rien à voir avec la réalité augmentée, mais j'ai appris que le nez paraissait 30% plus gros que ce qu'il est sur les selfies. Donc ça te laisse quand même un peu d'espoir.
Trop sympa. Alors, je vous propose d'écouter Monsieur Parano.
Oui, bah, je voudrais commencer par féliciter l'émission pour son ouverture à la parole de tous, hein, ce qui est très rare en ce moment, où on n'a plus le droit de rien dire sans se faire taxer de sexisme, de racisme ou de je ne sais pas quoi encore. Bon, bah, ça c'est un. Ensuite, pour l'histoire de la réalité augmentée ou virtuelle, moi je pose simplement une question, comment on va savoir, hein, vu que déjà la réalité, c'est difficile de savoir exactement ce que c'est, hein, les couleurs, les formes, tout ça, ça dépend de l'individu, les sons également. Comment on va savoir, désormais, quand on est confronté à quelque chose finalement de réel ou pas? Et puis d'ailleurs, est-ce que ça a une quelconque importance, hein? Voilà.
C'est dingue de penser ça parce qu'aujourd'hui, on n'est pas à ce stade. On n'est pas du tout à ce stade. On est au stade à utiliser son mobile pour venir projeter des éléments 3D dans son monde.
Dans l'armée, ils sont pas loin de ce stade quand même. Hein.
Je trouve qu'on est encore loin, en tout cas, en consumer, d'utiliser ce type de contenu et d'arriver à ce stade. Et je pense que on a aussi ce côté éthique des producteurs de contenu où on va pas non plus arriver à essayer de déstabiliser les gens avec ces technologies. C'est pas notre but. Notre but, c'est vraiment être récréatif, quoi. C'est à titre de formation ou en tout cas d'amuser les gens.
Mais est-ce que vous suivez ce que font, par exemple, les Chinois dans ce domaine ?
Alors aujourd'hui, c'est surtout les États-Unis qui sont moteurs dans les réalités virtuelles et la réalité augmentée. Quand vous avez notamment Snapchat, Instagram, Facebook qui investissent massivement dans ces technologies, vous avez Oculus qui est une entreprise de réalité virtuelle qui a été rachetée par Facebook. Où ils ont investi dans. Là, ils ont créé un labo avec 4000 personnes qui travaillent à plein temps sur de la réalité virtuelle.
C'est
et la réalité
Oculus
augmentée.
For Good ou c'est autre chose ?
C'est Oculus directement la société dont Oculus for Good fait partie. Mais on voit qu'en tout cas, les Américains investissent massivement. Après, en France, on a aussi notamment pas mal de salons de réalité virtuelle, type Virtuality à Paris ou le Laval Virtual à Laval, qui sont du coup des salons où il y a beaucoup de nouvelles technologies qui apparaissent et beaucoup de studios de production qui produisent des contenus très innovants ou même des technologies très innovantes. Après, tout ce qui est hardware, bien entendu, la plupart du temps, c'est les États-Unis qui ont les idées et les Asiatiques qui produisent.
Et du coup, je peux avoir votre position sur justement ces grands groupes, Instagram et autres, Facebook. Est-ce que sur le fait que quand même, ils ont l'air de prendre le pouvoir sur à peu près tout ce qui se fabrique en ce moment ?
C'est la grande problématique, je pense, de notre monde aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait dû créer un Google européen ou est-ce qu'on aurait dû en tout cas fermer comme la Chine l'a fait ? Moi, à titre personnel, je pense que oui. Ils ont de plus en plus de data sur nous. Ils ont de plus en plus d'informations sur notamment les casques de réalité virtuelle, sur où est-ce qu'on regarde, où est-ce qu'on clique. Et du coup, plus ils ont de data, plus ils ont d'informations sur nous et plus c'est compliqué pour des Européens de pouvoir créer de nouveaux produits. Alors, nous, c'est plutôt nos amis, hein, parce que grâce à eux, on arrive à aussi créer des nouvelles entreprises, de nouveaux marchés, de nouvelles façon de raconter des histoires. Donc merci aussi Mark Zuckerberg de créer Facebook, d'avoir créé Oculus et de développer aussi les casques de réalité virtuelle pour pouvoir nous permettre, nous en tant que studio de production, de créer des contenus de plus en plus innovants. Nous on utilise ces contenus, on essaie de les comprendre pour pouvoir du coup accompagner les annonceurs et les agences à créer ces contenus et à aussi apporter de la valeur sur le storytelling et la compréhension de leurs objectifs aussi.
Ça veut dire quand même, et ça c'est intéressant parce qu'effectivement il y a ces GAFA qu'on montre du doigt, mais finalement ce que vous dites, et c'est intéressant, c'est qu'ils créent quand même tout un nouvel ensemble de technologies qui après créent des entreprises qui sont un peu des médiateurs entre ces gros et des clients qui peuvent en avoir besoin.
C'est ça, exactement. Après, est-ce que j'aimerais avoir des casques de réalité augmentée made in France ? Bien entendu, mais c'est pas le cas parce que c'est compliqué de produire en France alors qu'on utilise du coup les technologies américaines pour pouvoir produire des contenus. Et aujourd'hui, clairement, ils gagnent la bataille. Ils vont plus vite que les autres, ils sont plus smart que les autres et ils arrivent avec des technologies qui sont bien plus innovantes et beaucoup plus vite. Et c'est vrai qu'on a certaines marques de casques françaises qui ont essayé de se développer, mais c'est compliqué pour eux.
Et puis pour moi, c'est même pas tant autour des casques que le fait que vous parliez d'Instagram tout à l'heure ou de Snapchat, qui était l'interface par laquelle on pouvait travailler, etc. C'est qu'à un moment donné, ils peuvent vous imposer leurs règles. Et voilà, et puis vous êtes soumis quand même à des choses que vous ne contrôlez absolument pas.
C'est un peu la complexité aussi pour nous. Alors quand on prend notamment Instagram, ils ont créé du coup Spark AR, qui est un logiciel pour créer de la réalité augmentée sur Instagram et Facebook. Et ils ont un nombre de policies pour du coup...
Le problème que ça pose, c'est que c'est eux qui définissent les normes.
C'est ça, exactement. C'est eux qui définissent les normes, c'est-à-dire que voilà. Même nous, là, par exemple, on produit des contenus pour des marques. Et parfois ça passe, parfois ça passe pas, on sait pas vraiment quels sont les droits qu'on a.
C'est un peu comme Uber, ils mettent à disposition des choses, vous voulez bosser, vous passez par eux, et eux, ils se font plus d'argent que vous, mais ça vous permet de bosser.
Mais c'est comme les influenceurs qui ont des comptes avec des millions d'abonnés et qui du jour au lendemain peuvent perdre leur compte à Instagram.
Oui, ça s'appelle la force des plateformes, voilà, on redécouvre la force, non mais c'est évident que c'est une hégémonie. Les débouchés d'Antoine ne sont pas limités à ces plateformes, puisque ce qu'on se disait au début, c'est qu'il y a d'autres champs d'exercice de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, qui ne sont pas uniquement dans Facebook, Snapchat et Instagram.
L'exemple de Célio ne passe pas du tout par ces plateformes.
Oui, mais bon, après, nous, on est heureux d'avoir aussi... nous, on est producteurs de contenu, donc avant tout, on veut raconter des histoires.
C'est-à-dire que vous avez des scénaristes, par exemple.
On est des scénaristes, on essaye en tout cas de se mettre à la place de la personne qui met le casque de réalité virtuelle et essayer de lui procurer de l'émotion. Quand on a créé Reality, on avait cette envie de créer des histoires et de proposer à des consommateurs, à des utilisateurs, de pouvoir se téléporter dans des mondes virtuels et de pouvoir rêver. Et le pouvoir de la réalité virtuelle, c'est aussi de pouvoir se voyager en Chine alors qu'on n'y est pas, de pouvoir se mettre au-dessus du vide alors que on est dans son salon.
Voir des monuments qui n'existent plus.
Voir
des monuments auxquels on ne pourrait pas avoir accès, comme la grotte Chauvet aussi, qui est visible grâce à la réalité virtuelle.
Exactement, et vivre des émotions grâce à ça. Alors il y a un des derniers projets qu'on a réalisé, donc je suis très fier, c'est qu'on a créé un produit, un document interactif pour un documentaire à Kinshasa où on se met dans la peau d'un enfant qui doit sortir des rues. Et l'idée derrière ce film, c'est de pouvoir montrer que être un enfant dans les rues de Kinshasa, c'est très compliqué. Et on a un film interactif où on a plusieurs choix, plusieurs décisions. Et il y a des décisions qu'on prend et du coup on peut mourir, et d'autres où on sort et on est à l'école et on peut sortir de cette misère. Et vivre ces instants et ces émotions de pouvoir être dans la place de cet enfant, c'est incroyable. C'est quelque chose que je pourrais pas vivre avec un autre média, que ce soit la télé ou mon téléphone. Et via cette immersion, je comprends mieux ce monde africain, je comprends mieux la place d'un enfant à Kinshasa, et j'ai vraiment vécu cette émotion. Et quand on parle de taux de mémorisation, le fait d'avoir vécu cette émotion, c'est bien plus fort que n'importe quel autre médium.
Et vous pourriez bientôt travailler avec des journalistes, puisque les médias envisagent aussi de faire du reportage en immersion. Imaginez aller traiter la guerre en Syrie en immersion avec de la réalité virtuelle.
Ça fait envie.
Bah ouais, mais pour faire comprendre ce qui se passe, on est quand même sur un niveau différent. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins?
Oui, après, ça devient du spectaculaire.
Mais on est déjà dans le spectaculaire. Il suffit d'allumer BFM, on est de sorte spectaculaire.
Pour oui, moi, mais je devais, enfin, c'est quand même.
Il faut aller encore plus là-dedans.
Mais ça dépend comment Félix. C'est traité, en fait.
Après, non, mais c'est moins du live.
On imagine que si RT fait du reportage en immersion, il y aurait la ligne éditoriale qui fera en sorte que ce soit pas que du spectaculaire.
C'est ça, exactement. Voilà. Je pense que c'est construit. Comme votre podcast qui est bien construit.
Merci Antoine.
Mais non, mais ça, en tout cas, je pense que le journalisme va s'y mettre très bientôt.
Avant d'attaquer l'historique de Félix, j'aurais voulu vous poser une dernière question, Antoine, sur le sujet sur lequel vous êtes actuellement. Est-ce que le monde du cinéma, le monde de l'entertainment, est en contact également avec vous des fois, que vous intervenez là-dedans?
Alors nous, on a un de nos films qui a été en tout cas sélectionné à Cannes. Donc du coup, on fait aussi de la production vidéo 360 degrés qui va être diffusée dans des festivals.
D'accord.
Et donc du coup, on a des films de commandes, en tout cas d'artistes qui viennent nous demander pour produire, coproduire des contenus. Après, la grande problématique des contenus de ce type, c'est la diffusion. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites un film, vous pouvez le diffuser au cinéma, en DVD ou via Netflix.
Mais vous voyez pas les casques arriver bientôt chez tout le monde?
Pas pour tout de suite. Il y a eu beaucoup de casques de vendus dernièrement, notamment l'Oculus Quest et l'Oculus Go qui s'est très bien vendu. On est en rupture de stock aujourd'hui sur le marché français. Donc on a en tout cas, je pense, un public qui en demande, mais on a aussi des capacités de production qui sont pas forcément à la réponse.
J'avais vu que, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus, que ce qui peut-être avait manqué dans ce marché-là des casques, c'est qu'on ait identifié des cas d'usage qui soient vraiment des cas d'usage très évidents pour les gens et qui accélèrent l'adoption. Je donne un exemple. Moi, j'avais essayé une fois du vélo d'appartement avec casque pour, en fait, finalement faire du sport, mais en ayant l'impression de le faire en étant poursuivi par des monstres, en étant dans un environnement hyper stimulant.
Mais toi, dans ton appartement, tu peux faire du vélo parce qu'il est assez grand pour ça, carrément.
Oui, bien sûr, mais j'essaie de me mettre un peu à la place des gens aussi. Et ce que j'avais trouvé, c'est que, en fait, ça m'avait permis de faire du sport pendant 35 minutes, alors que j'avais l'impression que ça en avait duré 10, parce que c'était tellement immersif que... Et donc, pour moi, ça, c'était un cas d'usage intéressant qui est l'immersion dans des mondes qui favorisent la pratique du sport, parce que, voilà, ça me stimule. Ou de la même manière, pour les enfants, pour les faire voyager longtemps en voiture, ou même des voyages en train où finalement on s'emmerde un peu, tout d'un coup, avoir à disposition de ce type d'outils permettrait une adoption plus grande, parce que là, évidemment, on a un cas d'usage évident qui est, bon, ben voilà, on a 4 heures à tuer et on peut s'évader complètement et en plus utiliser même le mouvement du train pour vivre des choses qui pourraient être liées même à l'idée que je suis en train d'avancer pour que ce soit encore plus impressionnant. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de ces cas d'adoption comme ça qui pourraient peut-être accélérer l'équipement?
Ou même, est-ce qu'il y a des usages sur lesquels vous travaillez qu'on ne connaît pas encore?
Pour le moment, je pense que là où les personnes vont consommer le contenu, ça va être sur des salles de réalité virtuelle où on va pouvoir projeter le contenu de réalité virtuelle dans des casques qui sont à demeure dans ces lieux. Et aujourd'hui, l'adoption se fait par là avant tout. Et elle se fait par des lieux de vie où on va, comme au cinéma, aller consommer le contenu. Des personnes qui achètent les casques de réalité virtuelle et qui les ont chez soi, c'est très axé aujourd'hui au gaming. Mmh. Les gens qui font du jeu vidéo, qui restent chez eux pour faire des parties de jeux vidéo sur leur PC, ils vont acheter, parce qu'ils ont déjà un PC connecté, ils peuvent mettre un casque de réalité virtuelle dessus, ils vont du coup brancher un PC pour aller faire du jeu vidéo. Aujourd'hui, sur des autres cas d'usage type vidéo 360 ou autres films qu'on peut voir à Cannes, l'adoption, elle n'est pas encore là en B2C. C'est très, très, très lié au gaming. Et on ne va pas non plus chez soi acheter un contenu pédagogique pour se former à l'extincteur. Ça ne nous sert pas à grand-chose. Donc non, l'idée, c'est
pas faux.
Le jour où on aura peut-être des contenus type Star Wars qui seront très liés à des consommateurs grand public, peut-être qu'on aura une adoption plus large. Je pense qu'avant tout, c'est lié au contenu.
Eh bien, le moment est venu de quitter le cinéma pour rentrer dans la salle de classe. Nous allons écouter l'historique de Félix.
L'histoire passionnante et édifiante du surréalisme.
Alors le sujet du jour, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, a fait ressurgir dans mon esprit un souvenir cinématographique marquant, un passage du film Hook ou La revanche du capitaine Crochet, réalisé par Steven Spielberg en 1991. C'est l'histoire de Peter Pan adulte, incarné par le regretté Robin Williams, qui fait son comeback à Neverland, le pays imaginaire. Là, le héros retrouve la bande des enfants perdus, dont il était le chef avant de grandir, et vient le moment du repas. Les orphelins invitent Peter à se mettre à table, mais dans les assiettes et les plats, rien d'autre qu'un amas de pâtes à modeler multicolores. Peter grimace, hésite, ne comprend pas, les enfants perdus le regardent, puis lui lancent comme une évidence « Peter, tu es au pays imaginaire !» Tout d'un coup, la pâte à modeler se transforme et laisse apparaître différents mets plus appétissants les uns que les autres à mesure que les convives invoquent leurs désirs. Dans l'esprit de l'enfant spectateur que j'étais alors, une question me laissait perplexe. Est-ce que Peter se trompe en ne voyant que de la pâte à modeler ou est-ce que les enfants perdus se trompent en croyant manger des plats délicieux ? Autrement dit, qui du réel ou du réel augmenté dit le vrai ? Plus tard, j'ai découvert une autre œuvre artistique qui a pu m'éclairer. À l'épreuve du bac littéraire, je présentais l'analyse du roman Nadja, écrit par le poète français André Breton. En 1924, Breton publie le Manifeste du surréalisme. Or, le surréel, c'est le plus que réel. C'est bien déjà l'idée de réalité augmentée. Ce mouvement artistique se définit comme la volonté d'appréhender le monde grâce à toutes les forces psychiques libérées du contrôle de la raison. Enfant du poète Rimbaud, qui désire changer la vie, du philosophe Marx, qui espère transformer le monde, et de Freud, qui explore l'univers de l'inconscient, André Breton écrit ainsi « Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue. » Pour parvenir à cette résolution, les surréalistes utilisent l'écriture automatique, le cadavre exquis, le rêve éveillé, les associations d'idées spontanées et d'autres techniques qui tentent de voir au-delà de ce qu'on nous vend comme le réel. Ces techniques, qui accouchent des plus belles œuvres d'art du XXe siècle, seraient peut-être les ancêtres de nos casques à réalité virtuelle. Mais revenons à Nadja. Dans ce récit, André Breton décrit sa rencontre bien réelle à Paris avec une jeune femme fascinante. Son prénom, Nadja, elle le choisit, je cite, « parce qu'en russe c'est le commencement du mot espérance et parce que ce n'en est que le commencement ». Partout où elle passe, Nadja voit des coïncidences, des signes, des symboles. Chaque rencontre est pour elle un moment magique qui résonne avec son passé et son futur. Elle voit plus que le commun des mortels. Et Breton tombe sous le charme de cette incarnation du surréalisme. Cependant, petit à petit, il se lasse. Il s'en veut même de la fréquenter, mais avoue s'ennuyer d'elle lorsqu'elle est loin. Le surréel l'amuse, le distrait, mais finit par l'écœurer. À la fin du roman, Nadja est internée à l'asile de Sainte-Geneviève-des-Bois, elle est déclarée folle. À force d'augmenter la réalité dans l'espoir d'y trouver plus de matière, son esprit s'est perdu. Et Breton annonce ainsi en creux la mort de son amour pour le surréalisme. Il y a bien le début d'une espérance dans l'au-delà du réel, mais le début seulement. Le surréalisme, le surréel, l'augmentation de ce qui nous est donné par nos sens, dissimule finalement une tentation qui, poussée trop avant, nous plongera dans le dégoût et la folie.
Les spectateurs des créations d'Antoine et de son studio Reality sont confrontés à une réalité qui n'a rien de délirante ni de surréelle en l'occurrence.
C'est, en fait, c'est très réaliste. C'est vrai que quand on prend la vidéo 360 degrés, c'est de la vraie vidéo. Si vous prenez la production classique de vidéos que vous avez sur Instagram, dans le cinéma, etc., etc., pour des contenus que vous avez pour des marques, c'est la réalité. Et du coup, on vient exactement pareil qu'au cinéma, créer des scénarios. Ensuite, ces scénarios, ils sont filmés dans des environnements avec des comédiens. Et on fait un film avec des messages, des objectifs, et on les intègre dans des casques de réalité virtuelle.
Et est-ce que, moi je me demande, parce que j'avais beaucoup vu de conférences l'année dernière à Austin sur ce qu'ils appellent la mixed reality, c'est-à-dire
la réalité mixte.
Si non, mais ils préfèrent des trucs en anglais. Il y a toujours un passage de cette émission.
Il y a toujours, ça fait partie des signatures.
Un truc, genre la mixed reality.
Non, mais c'est-à-dire le monde tel qu'il est, mais avec dans nos vies quotidiennes des endroits où on interagit avec de la réalité augmentée. Donc il n'y a pas de casque du tout, mais il y a des projections et des choses qui semblaient être utiles, par exemple
le futuroscope
en médecine, etc. Oui, voilà, mais qui semblaient être utiles, oui, comme un peu, voilà, exactement, l'ancêtre étant les hologrammes, mais donc des couches de réalité augmentées qui viennent s'insérer comme ça dans la vie normale.
Ouais.
Est-ce que ça semble être un futur probable, possible, c'est-à-dire voilà, dans les magasins, j'ai plein de petites choses comme ça qui viennent s'ajouter dans l'expérience que je peux vivre, mais chez moi pareil, et puis au bureau, etc.
Oui, même je pense aux pubs dans le métro, les affiches maintenant qui sont des vidéos, est-ce que c'est des choses où vous voyez que vous pouvez aussi vous implanter?
Alors nous, on ne développe pas des hologrammes. Il y a des sociétés françaises notamment qui développent des hologrammes avec différentes manières de pouvoir les diffuser. Vous avez notamment une start-up qui, avec des hélices, vient projeter des éléments 3D dans un environnement. Donc ça, c'est des sujets qui sont très intéressants dans le retail. Vous avez notamment le salon Event, où vous avez pas mal de contenu de ce type innovant pour projeter des environnements 3D. Mais aujourd'hui, nous, en tout cas, on ne conçoit pas ce type de technologie. Nous, pour nous, en tout cas, ce qu'on pense être le futur, c'est quand on aura des casques de réalité augmentée type Apple qui sera connecté avec notre téléphone et on pourra, via nos lunettes, projeter des éléments 3D dans son monde. Et donc, auquel cas, on n'aura plus ces environnements qui seront physiques, mais on pourra les projeter chez soi, dans des environnements qui sont les nôtres et pas les environnements des magasins.
Mais là, on retrouve vraiment la pub du début. On pourra projeter chez soi, par exemple, une image de chien qui n'est pas là.
Exactement. Mais après, on pourra... Donc ça, c'est une image de chien qui n'est pas là. Mais on peut aussi penser à un configurateur de véhicule. On peut penser à projeter une IKEA.
Alors, configurateur de véhicule.
Bah, typiquement, on pourrait, dans son salon, projeter sa Peugeot, ouvrir la porte.
Et essayer de choisir la couleur, tu vois.
Ah oui, d'accord, oui, pour tester des produits. Oui, d'accord.
Pour tester des produits.
On pourrait faire pareil avec Mythique.
Bah oui.
Ouais.
Pour Tinder, ouais.
On pourra aussi avoir des hologrammes de personnes, oui.
C'est ça. Non, mais ça, c'est quand même, du coup, on retombe sur la pub du début, et c'est quand même ce que vous projetez comme futur de réalité augmentée, c'est de pouvoir effectivement avoir des lunettes dont vous parliez, qu'on regarde notre bus passer et qu'on voit le temps du prochain bus parce qu'on vient de le louper, qui s'affiche pendant qu'on regarde le bus.
En fait, c'est ce qu'on appelle le spatial computing. Vous avez deux sociétés qui bossent dessus. Vous avez HoloLens de Microsoft, vous avez Magic Leap, et c'est le fait, au final, d'augmenter son monde et de pouvoir travailler mieux, plus efficace grâce à la réalité augmentée.
Il n'y a plus d'écran, en fait.
Il n'y a plus d'écran.
C'est le monde, l'écran.
Le monde de demain, ce sera de pouvoir positionner des écrans 3D et au final, de ne pas avoir son écran PC ou son mobile et ne pas être limité à l'hardware, mais d'être plutôt dans la projection d'environnement 3D dans son environnement.
Donc, c'est un peu ce que je décris. C'est ce monde où il y a un peu de réalité augmentée un peu partout.
C'est ça, exactement. Et ça peut aller plus loin quand on parle, par exemple, des artistes, les artistes de demain. On avait avant une peinture, on peignait sur une peinture. Demain, est-ce qu'on aura du coup en réalité augmentée la capacité de pouvoir peindre dans son environnement en 3D et du coup aussi créer des expériences récréatives qui soient au-delà du réel? Et grâce à la réalité augmentée, on peut aussi pousser le monde artistique et on peut pousser ces mondes-là. On va pouvoir créer des mondes immersifs beaucoup plus...
Ouais, puis les salles de cinéma vont potentiellement plus du tout avoir la même gueule dans 30 ans parce que ce sera juste un endroit où l'image est partout.
C'est ça.
Très bien. Et ben, c'est le moment de conclure quand même cette émission. Antoine, le futur, vous le voyez comment?
Bah, très bien, je pense que en tout cas, je pense que les casques de réalité virtuelle vont se développer, qu'on va avoir aussi des casques qui vont être de plus en plus petits, de plus en plus immersifs, on va avoir des capacités de production, on va avoir aussi des images qui seront plus nettes, donc du coup des expériences plus qualitatives, mais ça prendra encore du temps à arriver dans les foyers. Ça sera très développé sur la partie B2B, notamment dans le monde de la formation. Et je pense que les entreprises vont de plus en plus développer ce type de technologie pour pouvoir, du coup, développer leurs entreprises.
Olivier ?
Alors, on a beaucoup parlé des technologies et des outils qu'on a entre les mains. Et il me semble que, évidemment, on va pouvoir créer des choses beaucoup plus immersives de plus en plus. Et c'est intéressant. Ce qui, moi, me préoccupe en particulier, c'est quel est le sens qu'on va donner à tout ça. C'est-à-dire quels sont vraiment les récits qu'on va proposer aux gens. Quelles sont les histoires qu'on aura à leur raconter. Et oui, on peut les plonger dans des univers, mais à quoi bon si ces univers sont pas intéressants, sont pas passionnants? Donc, je pense qu'il y a une grande place à la créativité qui doit demeurer, parce qu'encore une fois, sinon, personne n'aura envie. Voilà.
Et très bien.
C'est ce à quoi on œuvre, nous.
Très bien. Ben,
moi, j'ai pas le droit d'une phrase de fin.
Vas-y, Félix.
J'avais envie de dire à nos auditeurs, pour la réalité augmentée, fermez vos yeux et ouvrez votre cœur.
Waouh. Très bien. Ben, longue vie à Reality. Alors, merci beaucoup, Antoine, d'avoir été là.
Merci à vous.
Longue vie à Full Six.
BETC Full Six.
À bientôt, Félix.
À
et
bientôt.
Merci pour ce podcast augmenté.
Voulez-vous en savoir plus? It's on a second catalog. It's red in those wings at on. Those wings at on. It's time. It's on a second. C'était Aïe, une émission du Poste Général en partenariat avec BETC Digital.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.